Nous trouvons dans chacun des quatre évangiles un récit de la résurrection de Jésus. Mais il n'y a que dans l'évangile de Jean où il nous est rapporté deux questions posées par Jésus qui vient de ressusciter. Ce matin, donc, en guise de message de Pâques et dans la série sur les questions posées par Jésus, j'aimerais que nous nous arrêtions sur ce passage, ce récit de Jean, où le Christ ressuscité pose deux questions. À qui les pose-t-il ? C'est ce que je vous invite à découvrir maintenant par la lecture de notre texte. Je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Second dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, et je vais lire les versets 11 à 18. Jean 20, versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. C'est donc à Marie, Marie de Madeleine, que Jésus pose les deux questions dans notre passage. Marie se trouve à ce moment-là près du tombeau et Jésus lui dit au verset 15, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Avant d'en venir à ces deux questions, j'aimerais dire quelques mots pour bien situer le contexte qui se trouve dans les 10 premiers versets de ce chapitre qui précède donc les versets que nous venons de lire. Le contexte, c'est donc notre deuxième point. Au matin de Pâques, le jour de la résurrection, le matin de la résurrection de Jésus, tout s'est passé avec discrétion. Tout s'est passé dans la discrétion du lever du jour. Pas de feu d'artifice, pas de trompette, pas de tambour. Juste quelques femmes et quelques hommes perdus dans leur chagrin. C'est Marie-Madeleine qui, la première et seule, se rend au tombeau. C'est du moins ce que le texte de Jean laisse à penser. Dans les autres évangiles, Marie fait partie d'un groupe de femmes. Marie est-elle d'abord venue toute seule ? Était-elle accompagnée par d'autres femmes dont Jean ne parle pas ? Jean a-t-il choisi de ne parler que de Marie, même si d'autres femmes sont présentes, parce que Marie aura un rôle important dans la scène suivante, celle qui nous intéresse ce matin ? D'autres femmes sont-elles venues avec elle après que Marie-Madeleine soit allée prévenir Pierre et Jean? D'autres femmes sont-elles venues indépendamment pendant que Marie retournait chercher Pierre et Jean? Voilà quelques-unes des questions qu'il faut se poser, qui ouvrent à différentes hypothèses et que nous devons nous poser dans un souci d'harmonisation avec les autres récits des évangiles. En envisageant les possibles, nous arrivons rapidement à la conclusion que plusieurs autres scénarii sont envisageables et plausibles. Notons juste ici que si Jean ne mentionne que Marie dans ce texte, celle-ci, quand elle va prévenir les disciples, utilise la première personne du pluriel au verset 2. Elle court trouver Simon et Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis ». Ce pluriel semble confirmer que Marie n'était pas seule, mais effectivement avec un groupe de femmes que Jean a simplement choisi de ne pas mentionner. Pourquoi Marie, pourquoi les femmes sont-elles venues au tombeau au matin de Pâques? C'est sans doute le texte de l'évangile de Marc qui nous donne l'explication, puisqu'il précise que les femmes sont venues avec des aromates afin d'embaumer le corps du Seigneur. Pour être précis, nous devrions dire afin de finir d'embaumer le corps de Jésus, puisque, souvenez-vous, Nicodème avait déjà apporté, au moment de la mise au tombeau, un mélange de myrrhe et d'aloès. Mais à cause du sabbat qui allait débuter, il avait fallu parer au plus pressé. Il avait fallu interrompre l'embaumement. Il avait fallu mettre Jésus dans un tombeau tout proche du lieu de la crucifixion. Ce dernier point est précisé par Jean à la fin du chapitre 19. Les femmes sont donc venues achever l'embaumement qui avait donc été interrompu à cause du début du sabbat. Mais il y allait y avoir un problème de taille, une pierre qu'il faudrait rouler pour accéder jusqu'au corps, une pierre bien trop lourde pour ces femmes. Et c'est ainsi que Marc, dans son évangile, nous rappelle qu'elle se demandait en marchant vers le tombeau qui allait rouler la pierre. Mais quand Marie-Madeleine arrive au tombeau, seule ou certainement avec d'autres femmes, la pierre a été roulée. Elle a été déplacée et l'entrée du tombeau est ouverte, accessible. Et voyant cela, Marie s'en retourne prévenir Pierre et Jean. Les prévenir de quoi ? Verset 2, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, dit-elle, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Marie pense que le corps de Jésus a été volé. Elle pense qu'il s'agit d'un acte de vandalisme. On peut noter ici que le vol de corps apparemment était pratique courante à l'époque, en tout cas suffisamment pour que quelques années plus tard, l'empereur Claude décide de punir de mort tous ceux qui seraient pris fautifs de vol de corps dans les tombeaux. On est en 41 à 54, le règne de l'empereur Claude. À l'évidence, Marie n'a pas pensé un seul instant à la possibilité de la résurrection, pas à ce moment-là. Cette éventualité ne fait pas encore partie des possibles pour elle, ni pour les autres disciples d'ailleurs, et ce malgré le témoignage des Écritures. alors que Jésus ressuscite le dernier jour à la résurrection des morts, aucun problème. Que Jésus ressuscite le troisième jour après sa crucifixion au matin de Pâques, ça c'était impensable, ça c'était impossible. Marie-Madeleine est donc allée prévenir Pierre et l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, que quelque chose s'est passé au tombeau. Et pour Marie, le corps de Jésus a été enlevé. Et sur les paroles de Marie, Pierre et Jean décident de se rendre au tombeau. Et ils s'y rendent en courant, verset 4. Jean est plus jeune, c'est le plus jeune, et il est plus rapide, et c'est donc tout naturellement qu'il est le premier à arriver devant le tombeau. Verset 5, nous lisons qu'il se penche, se baisse, voit les bandelettes, mais n'entre pas. Il n'ose pas. Pierre, lui, verset 6, arrive ensuite, et fidèle à l'image que nous avons de lui, ne s'embarrasse pas des mêmes scrupules que Jean, et rentre directement dans le tombeau. Et là, il voit aussi les bandelettes avec lesquelles le corps avait été enveloppé, ainsi que le linge qui était sur la tête de Jésus et qui se trouvait à part. Devant l'audace de Pierre, verset 8, Jean entre à son tour dans le tombeau. Et là, nous avons certainement une des plus belles phrases des évangiles. Il y en a beaucoup, mais celle-là en fait partie. Au verset 8, « Il vit et il crut. » Il vit et il crut. Qu'a-t-il vu ? Qu'a-t-il cru ? Ce que le texte précise ensuite au verset 9, c'est que jusque-là, les disciples n'avaient pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter. Mais là, dans le tombeau vide, Jean voit et il croit. Ce sont peut-être les bandelettes et le linge qui amènent Jean à croire. En effet, si le tombeau avait été complètement vide, la possibilité d'un vol aurait été difficile à écarter. Mais là, il y a les bandelettes et il y a le linge. Il est tout à fait improbable que des voleurs aient pris le temps et le risque d'enlever les bandelettes et tout le linge et de ne voler qu'un corps nu. D'autant plus improbable que les bandelettes, le linge et les aromates contenus dans ce linge étaient une valeur marchande certaine. Et on voit mal des voleurs s'en priver. La seule explication plausible, même si elle est incroyable, est que le corps de Jésus est passé au travers des bandelettes et du linge. Au travers des bandelettes et du linge, de manière tout aussi miraculeuse que quand quelques heures, quelques jours plus tard, Jésus entrera dans la pièce fermé à clé où les disciples sont cachés. Et nous sommes obligés de constater qu'à l'évidence, le corps ressuscité de Jésus ne connaît plus les limites de son corps avant de mourir. Il vit et il crut. Pour Jean, la présence des linges qui devaient avoir la forme du corps de Jésus est sans doute une indication forte de la résurrection. C'est en tout cas une supposition sensée que nous pouvons faire devant cette affirmation « Jean vit et crut ». Que se passe-t-il ensuite ? Verset 10, Pierre et Jean retournent chez eux et nous arrivons à notre passage. Sans doute que Pierre et Jean, dans leur excitation en repartant, n'ont pas vu Marie-Madeleine, qui était là, près du tombeau, en train de pleurer. Marie-Madeleine, c'est notre troisième et dernier point. Marie qui apparaît dans le récit des quatre évangiles. Marie-Madeleine que Jésus avait délivrée de sept démons, ou esprits mauvais, Luc 8, verset 2, et qui faisait partie du cercle rapproché des disciples de Jésus, des intimes de Jésus. Marie qui était au début du récit, et que nous retrouvons maintenant toute seule, près du tombeau, en train de pleurer. Marie-Madeleine semble perdue. Elle pleure. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas pourquoi on a volé le corps de son Seigneur. Tout en pleurant, elle s'approche du tombeau, se penche pour regarder à l'intérieur et voit deux anges vêtus de blanc. Deux anges qui se trouvent là où reposait le corps du Seigneur, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Leur présence indique indubitablement que la disparition du corps du Seigneur est le résultat d'une intervention divine. Et puis les anges interrogent Marie. « Femme, disent-ils. » Alors, j'ai dû perdre le fil, voilà. « Femme, pourquoi pleures-tu » disent-ils. La réponse de Marie montre tout son désarroi et toute son incompréhension de ce qui est en train de se passer. Nous l'avons déjà souligné. Elle leur répondit qu'on a enlevé le corps du Seigneur et qu'elle ne sait pas où on l'a mis. Oui, Marie est perdue, complètement perdue. Elle est noyée dans son chagrin. Ni la disparition du corps, ni la présence des anges ne lui permettent de comprendre quoi que ce soit. C'est uniquement la rencontre avec le Christ ressuscité qui va faire la différence. Après avoir parlé aux anges, Marie se retourne et elle voit Jésus. Jésus qui se trouve là, debout. Jésus qu'elle ne reconnaît pas. Pourquoi ? Est-ce que ses yeux remplis de larmes l'empêchent de bien voir ? L'empêchent de reconnaître Jésus, c'est possible. En fait, il est sans doute probable que l'apparence de Jésus est en partie changée. D'autres non plus, par la suite, ne le reconnaîtront pas tout de suite. En fait, Marie, à ce moment-là, n'a aucune raison de s'attendre à voir le Seigneur. Elle le croit mort. Elle ne croit pas encore à la résurrection. Elle n'a pas encore compris la résurrection. Pourquoi verrait-elle le Seigneur ? Pour elle, l'homme qui lui parle ne peut être qu'un inconnu. Le texte précise au verset 15 que Marie pensait que c'était le jardinier. Qui d'autre pourrait être dans ce jardin de si bonne heure ? Marie ne reconnaît pas Jésus, mais Jésus s'adresse à elle. Et il le fait avec nos deux questions. « Femme, dit-il, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Marie pense toujours que c'est le jardinier qui lui parle. Elle est en ce moment-là encore convaincue que quelqu'un a enlevé le corps du Seigneur. Peut-être que c'est le jardinier qui est responsable. Et c'est ainsi que elle dit au verset 15, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, « dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Le brouillard dans lequel se trouve Marie est un brouillard à couper au couteau. C'est vraiment un brouillard épais. Elle ne voit rien, elle ne comprend rien. Et pourtant, ce brouillard va se dissiper d'un coup, d'un seul, quand Jésus va se révéler à elle, quand le Christ ressuscité va se révéler à elle. « Marie, lui dit Jésus. » Et à ce moment-là, Marie comprend. Ses oreilles s'ouvrent et la brebis reconnaît la voix du bon berger. Ses yeux s'ouvrent et elle reconnaît le Seigneur. Son cœur s'ouvre et elle comprend la résurrection. « Rabouni, lui dit-elle en hébreu, c'est-à-dire maître. » Et en disant cette parole, Marie a dû se jeter aux pieds du Seigneur, des pieds qu'elle a dû saisir, des pieds qu'elle ne veut plus lâcher maintenant. C'est la parole suivante qui nous le fait comprendre, une parole d'ailleurs dont le sens n'est pas facile à saisir au premier abord. Verset 17, Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Cesse de t'accrocher à moi. » Je pense que cette traduction de la NBS, de la Nouvelle Bible Seconde, est la bonne. Si vous suivez dans votre Bible, peut-être que vous avez une autre traduction. « Ne me touche pas », disent certaines traductions. Mais cette traduction ne me touche pas, elle soulève au moins deux difficultés importantes. La première, c'est la contradiction entre cette interdiction et l'invitation à le toucher que Jésus fera à Thomas un peu plus tard. Pourquoi Marie ne pourrait-elle pas toucher Jésus alors que Thomas le pourra et qu'il y est même invité par Jésus ? La deuxième difficulté, c'est le lien avec ce qui suit. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Après cette traduction, avec cette traduction, on a cherché à expliquer pourquoi Jésus ne pouvait pas être touché avant de monter vers le Père. Et beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet, et je dois dire que très peu m'ont convaincu. La vraie question qui se pose ici est celle-ci. Qu'aurait eu Jésus à craindre ? Qu'aurait eu Jésus à craindre d'un contact physique avec Marie, même s'il n'était pas encore monté vers le Père ? De toute façon, le mal était fait. Si mal il y a, Marie a déjà touché Jésus. Mais Jésus n'avait absolument rien à craindre de ce côté-là. En fait, la traduction « cesse de t'accrocher à moi » semble bien meilleure. Et celle de la Bible du Semeur est peut-être encore plus éclairante. « Ne me retiens pas !»« Ne me retiens pas !» Marie est tellement heureuse d'avoir retrouvé son maître vivant. Elle a eu tellement peur de le perdre, pour toujours. Elle ne veut plus le laisser partir. Elle veut le retenir. Et c'est cette situation que Jésus adresse quand il lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, ne me retiens pas. » Ce que Jésus veut faire comprendre à Marie, c'est que des choses ont changé maintenant. Sa relation à lui sera désormais différente de ce qu'elle a été. Jésus veut qu'elle comprenne que sa foi doit être maintenant fondée sur la résurrection et non pas sur la restauration du passé. Les conditions ont changé et la relation avec le Maître doit maintenant assumer un caractère différent. Et Jésus signifie donc à Marie qu'il y a un avant et un après à la résurrection. Et puis il précise qu'il n'est pas encore monté vers le Père. Oui, dans le plan de Dieu, le Christ ressuscité n'est pas prévu de rester sur terre. Il doit monter vers son Père. Il doit retourner vers son Père. Et c'est d'ailleurs à l'avantage des disciples que ce soit ainsi, parce qu'en retournant vers son Père, Jésus leur enverra le Saint-Esprit, le Consolateur qu'il leur a promis. Non, Marie ne doit pas retenir Jésus qui doit retourner auprès de son Père. Marie doit le comprendre. Elle doit comprendre que quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau s'est mis en place avec la résurrection. Et puis maintenant, Marie doit témoigner. Maintenant, Marie doit témoigner. Marie est un témoin de la résurrection. Et un témoin, qu'est-ce que ça fait ? Un témoin, ça témoigne. Marie est la première à avoir vu le Christ ressuscité. Ce qui m'amène à ouvrir une petite parenthèse sur la véracité du récit. Marie est la première à avoir vu le Christ ressuscité. Et alors, me direz-vous ? Au XXIe siècle, ça ne pose aucun problème. Ça ne devrait pas, en tout cas, pour beaucoup, ça ne pose pas de problème. Ça ne soulèverait aucune objection. Mais il y a 2000 ans, c'est une autre histoire. Et il faut se rappeler ici que le témoignage d'une femme à l'époque, désolé mesdames, mais le témoignage d'une femme à l'époque n'avait aucune valeur. En tout cas, dans une cour de justice, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur juridique. Il n'était tout simplement pas reçu dans une cour de justice. Alors qu'est-ce que je tire de cela ? Je tire de cela une preuve importante de l'historicité des événements de la résurrection. Une preuve importante de la fiabilité du texte des évangiles et du texte biblique en général. Pourquoi ? Parce que si, comme cela a été souvent avancé, le récit de la résurrection est une invention de l'Église pour mobiliser les disciples qui étaient démobilisés, découragés, c'est des choses qu'on entend et qu'on lit encore aujourd'hui, alors nous serions en présence de bien piètres scénaristes. Parce que le témoignage d'une femme à l'époque était tout sauf crédible. En tout cas, ça aurait été bien plus crédible que de faire dire tout ce qu'il y avait à dire par un homme, par des hommes. Si la résurrection était une histoire inventée de toutes pièces, on peut quand même penser qu'ils auraient fait intervenir des hommes uniquement, des hommes dont le témoignage ne pouvait pas être remis en cause. Un témoignage aussi peu crédible que celui de Marie, ça ne s'invente pas. Mais par contre, ça crédibilise complètement, à mes yeux, le récit de la résurrection, où d'ailleurs, soulignons-le, les femmes sont omniprésentes. Je referme cette petite parenthèse. Va vers mes frères et dis-leur. Dit Jésus à Marie. Dis-leur quoi ? Dis-leur que je suis vivant ? Dis-leur que je suis ressuscité ? Dis-leur que je vais monter vers le Père ? Dis-leur que je vais poursuivre mon œuvre ? Dis-leur que tout ce que j'ai dit, je vais le réaliser ? Va vers mes frères et dis-leur. Oui, Marie est un témoin de la résurrection et elle doit témoigner de ce qu'elle a vu. C'est la mission que le Christ ressuscité lui confie. Les deux questions que Jésus lui a posées avaient pour but de faire passer Marie de disciple éploré à témoin de la résurrection. Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Permettent tout d'abord à Marie d'exprimer son chagrin, sa peine, son incompréhension. Déjà les anges avaient posé cette question, pourquoi pleures-tu ? Et puis Jésus se révèle à Marie et les deux questions qu'il pose peuvent s'entendre autrement. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu, puisque je suis ressuscité, puisque je suis vivant ?» Oui, le temps n'est plus aux pleurs. Le temps n'est plus à la tristesse et à la compréhension et à l'incompréhension, mais à la joie. À la joie de la résurrection. Et avec la joie de la résurrection vient aussi la mission, parce que Marie est devenue un témoin de la résurrection. Et un témoin, ça témoigne. Va vers mes frères et dis-leur. C'est d'ailleurs la mission que Jésus confiera à chacun de ses disciples avant de les quitter. Mission qui nous concerne aussi si nous sommes disciples de Jésus. Souvenons-nous de ce texte à la fin de l'évangile de Matthieu, où Jésus envoie ses disciples faire d'autres disciples, c'est-à-dire témoigner pour que d'autres reconnaissent en Jésus le Christ ressuscité. Faire des disciples. Comment ? Mais tout simplement en témoignant à notre tour. Si nous sommes disciples de Jésus, alors nous aussi nous sommes témoins. Et nous aussi nous devons témoigner. Alors bien sûr, nous n'étions pas présents au matin de Pâques il y a 2000 ans. Mais par la foi que Dieu nous a accordée, par la foi que Dieu nous a donnée, et par l'action de son Esprit dans nos vies, dans notre cœur, nous avons cru. Nous avons cru même sans voir. Et nous sommes devenus disciples de Jésus. Et nous avons reçu pour vrai le témoignage de ceux qui nous ont témoigné. Nous avons reçu pour vrai le témoignage des Écritures que Jésus, que Jésus est ressuscité, qu'il a tout accompli pour nous sauver. Et nous sommes à notre tour devenus des témoins du Christ ressuscité. Des témoins du Christ ressuscité. Des témoins de son amour pour nous. De son amour pour tous les hommes, des témoins de sa grâce manifestée en Jésus, des témoins de l'espérance de la vie éternelle qui nous habite, des témoins de tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie et qui n'est possible que parce que le Christ est ressuscité. Un témoin, ça témoigne. Alors il nous faut poser cette question. Est-ce que nous témoignons ? Est-ce que nous témoignons ? Est-ce que je témoigne ? Je vais m'arrêter là, que le Seigneur fortifie notre foi pour que nous puissions le faire et le faire avec un zèle nouveau. Qu'il fortifie notre foi dans le Christ ressuscité. Sans laquelle notre foi est vaine, parce que si Christ n'est pas ressuscité, alors, mes amis, il faut que nous fassions autre chose le dimanche matin, qu'il renouvelle notre zèle, notre disposition à être ses témoins, à proclamer que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il nous aime, qu'il a tout accompli pour le salut, et qu'il revient bientôt pour chercher les siens. Un témoin, ça témoigne. Et c'est comme ça que depuis 2000 ans, l'Église de Jésus-Christ est partie de la Galilée jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cette mission, elle est encore valable pour nous jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il nous aide chacun à l'accomplir avec sa force et son secours. Amen.